BlackRock est un gestionnaire d'actifs. Donc BlackRock ne s'occupe pas des pensions de retraite. Donc on est en train de mélanger des choses qui n'ont absolument rien à voir. On joue sur le fantasme, là où la responsabilité politique, c'est de traiter avec la raison.
Bon, BlackRock en France, cheval de Troie de la retraite par capitalisation ou pas, c'est le sujet. Et la polémique, elle agace Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et sa secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher, qui nous assure que le géant de la finance n'a pas grand-chose à gagner dans notre réforme. Le marché français, dit-elle, mais c'est une boîte de Smarties. Excellente comparaison. Pour le moment, en France, l'épargne retraite, en effet, c'est petit. Mais attendez, on sort des fêtes. On sait bien que ça n'est pas parce que vous n'avez qu'un petit chocolat que vous n'en voulez pas le plus vite possible un plus gros. Alors non, l'exécutif ne supprime pas du tout le système par répartition. Mais oui, avec la réforme, avec la loi Pacte, il encourage dans une certaine mesure la capitalisation. Et oui, BlackRock, qui conseille les gestionnaires de l'épargne retraite, fait partie des premiers intéressés. Il ne faut quand même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Le lobbying et son impact, ça, ce serait de l'enquête. Mais pour nous, il y a quand même une question éco. Plus de capitalisation dans le système, pour ceux qui peuvent, ce serait plutôt un cadeau ou un poison ?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, bonne année à tous. Heureuse de vous retrouver en 2020, je vous propose de continuer comme en 2019, le samedi à partir de 9h10. L'économie comme on la vit. Et ce 4 janvier, le magazine est réalisé par François Audouin. Emma Ferré est attachée de production et c'est Julien Dumont qui nous accompagne à la technique. À eux aussi, je leur ai souhaité la bonne année, juste avant d'entrer. Ils m'ont répondu, oula, 2020, faudrait déjà savoir d'où peut venir la prochaine crise. Et comme ils ont commencé, comme d'habitude, à parler en même temps, on s'est dit, ah, voilà un beau débat. Le duo infernal est fidèle au poste à mes côtés, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous et bonne année.
Et bonne année, bonjour, Emmanuel Le Chip de BFM Business.
Mais oui, bonjour à tous, bonne année, 2020, c'est très prometteur.
2020, bon, pourquoi tous ces boutons qui ont poussé pendant que je parlais de BlackRock?
Ah bah on va vous laisser tirer la première et puis
Ben ça y est, c'est fait là. BlackRock, la polémique, la capitalisation, poison, bah, cadeau.
Alors moi il y a plusieurs choses qui me choquent dans ce que vous avez dit. On va attaquer l'année.
Bah c'est une bonne année.
On va attaquer l'année franchement. Bon alors d'abord moi bêtement hein, j'ai regardé tous les classements des meilleurs systèmes de retraite au monde. Il y en a plusieurs. Il y a l'OCDE, il y a Mercer, etc. Et quand vous regardez les meilleurs systèmes de retraite au monde.
Ça veut dire meilleur, Emmanuel?
Bah, les meilleurs, justement, il y a plusieurs critères. Il y a un critère qui est, ce que ça distribue, la générosité du système. Le deuxième critère, c'est sa viabilité financière. Le troisième critère, c'est la confiance qu'on a dans ce système, sa lisibilité, sa simplicité. Et quand vous regardez le classement de la France, par exemple, dans tous ces classements, vous voyez, un, que sur la générosité, on est parmi les premiers ou deuxièmes. Par contre, sur, la viabilité, classé 30e chez Mercer, à peu près, et à peu près autant sur la confiance et la lisibilité dans le système. Et qu'est-ce qu'on voit sur les pays qui sont les mieux classés? Un truc tout simple, c'est que vous avez de la répartition pour la stabilité et que vous avez de la capitalisation pour le rendement. Et que globalement, dans ces pays, vous avez plus de capitalisation qu'en France. Donc un mois, un peu plus de capitalisation dans le système français, ça me choque pas. Alors après, on parle de BlackRock, mais est-ce que les gens connaissent Amundi, Natixis, AXA IM? Alors, comme si BlackRock était la seule entreprise qui soit vraiment le cheval de Troie de la capitalisation. Mais par rapport à ces géants qui sont des Français, et je peux vous dire que le patron de Natixis, le patron d'Amundi, il est autrement plus introduit à Bercy et à l'Elysée.
Amundi, c'est Crédit Agricole.
Oui,
voilà, faut le dire.
Notamment. Et voilà, donc ça, c'est des grosses boîtes françaises qui sont des champions mondiaux de la gestion. Amundi, c'est le premier acteur européen. Et donc, il n'y a pas que BlackRock là-dessus. Oui. Et puis l'autre truc qui me choque, pour terminer, vous dites la capitalisation pour ceux qui peuvent. Mais c'est ça que je trouve choquant, c'est que tout le monde devrait avoir un peu de capitalisation pour avoir un peu de rendement supplémentaire.
Tout le monde devrait avoir le droit de perdre son argent en bourse. Enfin,
mais non,
voyons,
c'est
Alexandra,
pas la réalité. Il y a des accidents.
Comme aux États-Unis en 2008.
Ça arrive parfois.
Non, là où je suis d'accord avec Emmanuel, c'est qu'il ne faut pas faire d'anti-américanisme primaire. BlackRock n'est pas la seule pierre noire dans le jardin de la répartition. Amundi l'a cité. Donc tous les grands gestionnaires de fonds ont intérêt à ce qu'on ait Moi, ce qui me gêne, c'est que le gouvernement est en train de nous développer un système de retraite à deux étapes. On va avoir l'étape de répartition, celle qu'on connaît actuellement, ce sera pour tout le monde. Et pour les autres, ce sera le socle. Et pour les autres, il y aura un complément de retraite qui sera fourni soit par de la capitalisation. Ça, c'est inscrit dans le plafonnement des cotisations pour les hauts salaires à 3 plafonds de sécurité sociale. Soit par l'épargne d'entreprise, ça s'est inscrit dans la loi PAC. Donc on voit bien que le gouvernement est en train, subrepticement, c'est ça qui est un peu gênant, de nous mettre une retraite à deux étages. La répartition pour le tout venant, je dirais pour nous, les salariés de base, et puis pour ceux qui ont un peu plus, entre l'épargne d'entreprise ou la CAPI, vous aurez vraiment votre complément de retraite. Et pour avoir une belle retraite, il faudra en passer par là.
Et la CAPI, c'est bien, mais c'est souhaitable. Est-ce que ça serait souhaitable pour chacun ?
Non, je crois que... il faut quand même revenir sur une note de Patrick Artus cette semaine qui nous a fait un petit calcul en disant si vous placez un euro...
Attendez, Patrick Artus. Okay. Patrick Artus, c'est le chef économiste de Natixis, dont vient de parler Emmanuel.
Voilà, donc Patrick Artus, il nous sera... J'adore Patrick Artus.
Oui, ça suffit pas à l'économiste intelligent.
Il faut dire d'où il parle.
Bien sûr que ça suffit pas. C'est un économiste intelligent que moi j'aime de renom et que j'aime beaucoup. Il nous dit, vous placez 1 euro en 1982, en répartition, ça vous ramène 2 euros. Vous le placez en capitalisation, ça vous ramène 20 euros. Un écart de 1 à 10. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un peu de bon sens quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dépense à peu près 300 milliards en retraite. Ça veut dire qu'on aurait 3 000 milliards à dépenser en retraite, un écart de 1 à 10 sur le rendement, plus que le PIB français, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle en économie un sophisme de composition. Vous dites, vous faites croire que tout le monde, si vous prenez un individu et que vous l'appliquez à des millions de personnes, ça donne le même résultat. C'est complètement faux et surtout, ça ne prend pas en compte, ça ne prend pas en compte les frais de gestion. Je vous renvoie sur Internet un excellent calcul si vous faites de l'assurance vie, c'est-à-dire un peu risqué, c'est-à-dire que vous prenez de l'action, de l'obligation, ce que nous suggère de faire Patrick Artus, c'est que la capitalisation, vous apercevez que sur les 20 dernières années, le rendement est négatif, pas positif.
Donc c'est
négatif.
Ça le fond de la question.
Donc ça ne marche pas du tout. C'est juste, ça le fond de la question. La CAPU, c'est négatif.
Juste un petit rappel historique. Sous Lionel Jospin, le grand ami de Christian Chavagneux, il y avait eu un grand projet mené par Jean-Michel Charpin, qui à l'époque s'occupait des retraites et qui avait comme ambition...
J'étais au plan au moment où il a...
Avait comme ambition de faire un très grand fonds public de capitalisation.
Tout le monde a le droit de faire des erreurs.
Qui n'a accouché que d'une petite souris, qui était le fonds de réserve des retraites. Mais ça aurait été une excellente idée, parce que contrairement à ce que dit Christian, les Français seraient bien plus riches aujourd'hui si on avait mis un peu de capitalisation. Il ne s'agit pas de faire que de la capitalisation. Si on avait mis un peu de capitalisation dans leur retraite, de toute façon, ils le font eux-mêmes. Ils le font eux-mêmes, de toute façon, avec l'assurance vie et avec l'immobilier.
Nous aurons comme invité tout à l'heure le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier. On va continuer à parler, pas seulement de la capitalisation, on va parler beaucoup de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Ce sera vers 9h45. Nous avons aussi rendez-vous avec Sandrine Foulon, Madame Vieux-Boulot. Ce sera juste avant 10h. Mais tout de suite, on a parlé des retraites. Tout de suite, on va regarder ce qui va se passer en 2020. On va voir le futur. Ça passe par comprendre le passé. Alors hop, on se remet un petit peu de 2019 dans les oreilles.
5 janvier 2019, manifestation des Gilets jaunes, acte 8.
Est-ce qu'on a fait fausse route ? Je crois tout le contraire.
Emmanuel Macron.
Au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2000 euros.
Président de la République.
Je ne veux pas de hausse d'impôt, je veux des baisses pour ceux qui travaillent en réduisant significativement l'impôt sur le revenu.
Rien sur les minima sociaux. Donc ça ne changera pas grand-chose pour le quotidien des gens demain.
Et c'est dommage pour lui, parce que là, il a appelé les Gilets jaunes à aller un peu plus dans le mouvement et un peu plus dans la colère.
Moi, depuis que je suis petit, on m'explique que le grand drame français, c'est le chômage.
Gérald Darmanin.
Bon, le chômage, il baisse continuellement depuis que le président de la République est président de la République.
Ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Il baisse continuellement. 500 000 personnes pour retrouver un boulot, de la dignité, qui font vivre leur famille.
Néanmoins, cette baisse n'efface pas les écarts qui sont encore très importants en termes de niveau.
Jérôme Fourquet.
Vous avez des départements où on est déjà quasiment au plein emploi.
Directeur du département Opinion et Stratégie d'Entreprise de l'Institut de Sondage IFOP.
Et on a d'autres départements, dans Languedoc-Roussillon par exemple, où on est sur encore des taux qui sont supérieurs à 10.
Je pense que plus la guerre commerciale dure, plus la Chine faiblit et plus nous sommes forts.
Donald Trump, président des États-Unis.
Je sens que ça va vite se régler. Ils veulent vraiment un accord. On verra ce qui va se passer.
Il faut absolument bien comprendre comment se crée la valeur.
Margaret Vestager.
Dans le monde numérique, on va vers un monde de plus en plus numérique.
Commissaire européenne à la concurrence et au numérique.
Et si l'on ne trouve pas le moyen de prélever des impôts, c'est un énorme problème en effet. Je pense qu'il est important que tous les États européens qui ressentent le besoin d'aller de l'avant le fassent.
Mes amis, nous l'avons fait.
Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni.
Et maintenant, nous allons faire le Brexit dans les temps, sans si, sans mais, sans peut-être. La 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 la.
La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de progrès social.
Pour un gouvernement qui voulait plus de régimes spéciaux, il y en a de plus en plus. Donc,
Philippe Martinez.
Autant qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on retire le projet et qu'on élève par le haut tous les régimes de retraite.
Secrétaire général de la CGT.
Quelle que soit la couleur du gilet, il faut qu'on soit ensemble le samedi, mais aussi les jours de semaine pour faire grève.
Emmanuel Le Chip, 2019, toutes ces menaces, tous ces conflits. Un bilan ?
Ah, moi, je crois qu'il y a une tendance qui, pour moi, est importante, c'est la déconnexion. 2019 consacre la déconnexion vraiment de l'économie réelle et de la finance. Vous avez une croissance mondiale qui ralentit dans presque tous les pays et des marchés financiers qui explosent. Hein, vous faites 25-30% sur les grands indices boursiers, une croissance qui ralentit. Ça montre bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde de la finance est déconnecté de l'économie réelle et que plutôt que de se demander en permanence, comme on le fait toujours, quel est l'incident qui se passe dans l'économie réelle qui pourrait avoir un impact sur les marchés financiers, moi je dis qu'il faudrait plutôt se demander dans la vie autonome quasiment des marchés financiers qui dépendent de la liquidité, qui dépendent des taux d'intérêt des banques centrales, qu'est-ce qui pourrait se passer sur les marchés, quel incident sur les marchés pourrait avoir un impact sur l'économie réelle.
Christian Chavagneux.
Permettez-moi juste une petite pensée pour les deux chercheurs du CERI de Sciences Po, Fariba Adelka et Roland Marshall, qui sont injustement emprisonnés en Iran simplement pour avoir voulu nous expliquer comment fonctionne l'économie iranienne pendant que deux gros opulents payent des fortunes, des barbouzes pour échapper à la justice. Il y en a d'autres. Fariba Adelka, depuis le 24 décembre, est en grève de la faim. Elle joue sa santé, ouais. Elle joue peut-être sa vie pour être libérée. Donc voilà, je voulais juste pour ces deux chercheurs qui parlent aussi beaucoup d'économie, il faut y penser.
Vous avez raison. Et sur les bulles, néanmoins, Emmanuel vous
sur
a...
Sur les bulles, je pense que 2019 a montré que la politique monétaire avait atteint ses limites. On croyait que la politique monétaire allait un petit peu revenir à une position un peu plus normale, arrêter de dépenser beaucoup d'argent. C'est reparti des baisses des taux d'intérêt aux États-Unis. On repart dans le fameux quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne se remet à racheter des titres financiers pour garder les taux d'intérêt bas. On voit que l'impact sur l'économie est relativement faible. 2019, ça nous dit la politique monétaire, c'est fini, elle est au bout, c'est bien ce qu'elle fait, mais maintenant, il faut que la politique budgétaire prenne le relais, d'autant plus que les banques centrales nous mettent des taux d'intérêt à zéro, voire négatif en France sur 15 ans. Sur 15 ans, l'État français emprunte à des taux d'intérêt négatifs. C'est passer complètement à côté de l'histoire que ne pas engager la transition écologique qui reste quand même le grand terme économique de 2019, de 2020 et pour les 10 prochaines années.
Emmanuel Le Chip.
Oui, je crois que ce qui est très spectaculaire, c'est que ce monde des taux d'intérêt nuls, on voit que aujourd'hui, il a plus d'inconvénients que d'avantages. Et on est dans une terre inconnue sur beaucoup de sujets. Hein.
C'est la principale menace pour 2020, pour vous ?
Alors, la principale menace, grosso modo, aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y ait de bulles caractérisées, que ce soit sur les marchés d'actions, que ce soit sur l'immobilier. Il y a ces taux d'intérêt à long terme extrêmement bas, mais qui ont été portés très bas, en partie par les banques centrales. C'est pour ça que c'est pas vraiment une bulle. La question, c'est est-ce qu'on a les moyens ? Alors, moi, je pense qu'il faut être très clair. Le pire qui pourrait arriver à l'économie mondiale, c'est effectivement une remontée violente de ces taux d'intérêt qui déstabiliserait tous les agents endettés. Mais effectivement, personne n'y croit. Donc, à partir de là, comme il n'y a pas de risque d'inflation non plus, on voit bien que on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'aube d'une catastrophe gigantesque. Mais on voit bien en même temps que si on prolonge les tendances, ça nous emmène dans un monde extrêmement compliqué, un monde où on va peut-être nous prendre de l'argent pour laisser de l'argent sur notre compte, les banques finiront peut-être par ne plus prêter parce qu'elles perdent de l'argent en distribuant du crédit. C'est quand même un monde d'inconnus.
L'inquiétude, c'est que on a une dette mondiale qui est à peu près à 250 000 milliards de dollars aujourd'hui. C'est 70 000 milliards de plus qu'en 2007-2008. Donc on se dit, il y avait déjà trop de dettes en 2007-2008, ça a donné les subprimes. Encore plus de dettes, ça va donner encore plus de crises. Je pense que le raisonnement, il n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce n'est pas le niveau absolu de la dette qui compte, c'est est-ce que la dette correspond, les crédits qui sont distribués correspondent aux besoins de l'économie ou pas ? Et là, vous avez la fameuse banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques centrales, qui fait ce calcul. Est-ce que dans les économies, il y a trop de crédits, juste ce qu'il faut de crédit ou pas assez de crédit ? Et la BRI nous dit, pour la France et l'Allemagne, juste ce qu'il faut. Pour la zone euro, on est plutôt à moins 13%. Pour le Royaume-Uni, à moins 19%. Pour les États-Unis, à moins 7%. Donc on est plutôt encore dans une économie mondiale où il manquerait plutôt du crédit, plutôt qu'il y en aurait trop. Deuxième point, c'est que la dette la plus risquée, c'est pas celle qui crée vraiment les crises systémiques qui vont partout dans le monde.
Pas la dette publique.
Voilà, c'est pas la dette publique, c'est la dette des celle dont on parle jamais, des entreprises financières, la dette des banquiers et des investisseurs. Et celle-là, elle avait explosé au début des années 2000, elle a reculé depuis 2008. Enfin, Emmanuel vient de le dire, les taux d'intérêt sont faibles, voire négatifs, donc on n'a pas trop de problèmes de remboursement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque dans la finance, attention.
Alors, il y a des risques dans la finance, après il y en a d'autres sur lesquels on peut s'interroger. Typiquement, avec ce qui se passe en Iran aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque pétrolier ? Parce qu'en fait, ça n'est jamais la géopolitique en elle-même qui impacte l'économie mondiale et les marchés financiers. C'est les conséquences, notamment via le pétrole. Et puis, il faut se rappeler que toutes les grandes récessions, elles ont été précédées d'un choc pétrolier. Or, aujourd'hui, les fondamentaux du marché pétrolier, ils sont quand même à tirer les prix à la baisse. Vous avez clairement des prix qui sont capés en bas par les ententes des producteurs. Et puis, par le haut, vous avez cette formidable barrière qui est constituée par tous les pétroles de schiste aux États-Unis. Dès que les prix montent, on produit plus. Et ça fait baisser la pression sur
les prix. Alors, moi, je vous écoute. Menace sur la finance, vous relativisez.
Pas immédiate.
Le pétrole, vous nous dites que non, ça va à la baisse.
Super imminent. Pas super.
Le protectionnisme, c'est une fausse menace.
La guerre commerciale,
États-Unis-Chine, c'est une fausse menace. Tous les calculs des économistes ont ça. Peu d'impact sur la croissance, peu d'impact sur les prix. Vous avez le Brexit, évidemment, qui va quand même rentrer en œuvre cette année. Petite étude originale.
À la fin du mois.
À la fin du mois, on va commencer à négocier les conditions vraiment de la sortie, dont on aura éventuellement peut-être la solution au mois de décembre de cette année ou un peu plus tard. Petite étude rigolote qui vient d'être publiée sur, vous savez, quelles sont les entreprises dans le monde qui seraient touchées vraiment par le Brexit. Et donc, vous avez des chercheurs qui ont fait le truc rigolo. Tous les trimestres, quand vous êtes une entreprise cotée, vous devez donner vos résultats et les justifier. Donc, ils ont repris sur plus de 7700 entreprises dans 70 pays les petits commentaires trimestriels pour savoir qui parle du Brexit et qui dit qu'il y a des risques. Vous avez des pays pas un peu touchés. Thaïlande, Philippines, Indonésie, on se dit ok, c'est loin, mais la République tchèque, le Portugal, la Grèce, l'Italie, les entreprises disent non, c'est pas un vrai problème. Les plus touchés, c'est pas les entreprises britanniques, c'est les irlandaises, évidemment les européennes aussi. Petit résultat rigolo, les îles anglo-normandes disent le Brexit, ça va avoir un impact hyper positif chez nous. Alors, est-ce qu'ils pensent que Boris Johnson va développer le Royaume-Uni comme un paradis fiscal en s'appuyant sur ces îles? Voilà.
Donc moi je vous entends plutôt serein, vigilant mais serein.
Des grandes crises, éléments de langage. Une grande crise financière, genre crise 2008, etc. Moi je pense qu'effectivement on est à l'abri. Après il y a quand même plein de petits risques. Crise sociale quand même partout.
Non mais le gros risque c'est le risque climatique, c'est ça.
Oui,
c'est, est-ce que l'Europe va faire quelque chose?
Pas sur les deux années à venir.
Christian Chavagnier, vous ne croyez pas si bien dire. Ce matin c'est à Bruxelles que je vous emmène. Bonjour Johanna Hochstein.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous suivez pour France Inter le travail de la Commission européenne. Alors Christian Chavagneux vient de nous poser une question, vous allez nous répondre. Est-ce que 2020 sera l'année où notre union économique va changer de logiciel sur l'écologie ?
Bien écoutez, sur le papier, c'est la volonté, oui. La nouvelle Commission européenne a fait de la lutte contre le réchauffement climatique une de ses priorités. 10 jours à peine après sa prise de fonction, sa présidente Ursula von der Leyen a présenté son fameux pacte vert pour l'Europe avec pour objectif de réconcilier la croissance avec la planète, rien que cela. La transition écologique doit en fait irriguer toutes les politiques de l'Union européenne, l'agriculture, le commerce, les transports, l'industrie. La Commission européenne veut en fait consacrer 25% du budget européen à l'action climatique.
Ça c'est beaucoup, Johanna, mais concrètement, il y a quoi comme action proposée par la Commission ?
Alors, en décembre dernier, Ursula von der Leyen a en fait avancé des idées, comme le fait de réduire l'utilisation des pesticides, d'instaurer une taxe carbone aux frontières, d'améliorer la consommation énergétique des bâtiments, pour faire de l'Europe le premier continent à atteindre la neutralité carbone en 2050, ça c'est pour l'objectif. Mais pour les premières propositions concrètes et les textes législatifs, il faudrait attendre la troisième semaine de janvier, donc encore un peu de patience. C'est à ce moment-là que la Commission présentera son mécanisme pour une transition juste avec un fonds de 100 milliards d'euros à la clé pour aider les régions qui sont en fait les plus exposées.
Donc en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il va encore falloir patienter pour savoir si ce pacte vert sera à la hauteur de l'enjeu climatique.
Oui, c'est cela. Et les écologistes au Parlement européen attendent la nouvelle commission au tournant, par exemple sur le nouvel objectif de réduction des émissions de CO2 pour 2030 qui sera annoncé cet été. Vous savez, la tâche s'annonce difficile pour Ursula von der Leyen et son équipe, et pour cause, certains pays comme la Pologne sont encore très très dépendants du charbon et ont peur de l'impact d'une transition écologique trop ambitieuse au niveau économique et social.
Johanna Hochstein, en direct avec nous depuis Bruxelles. Ben voilà, Christian Chavagneux, vous avez votre réponse. Pour l'enjeu climatique, savoir si on change de logiciel, il faut encore un petit peu attendre. Alors pour terminer notre débat, une question quand même. On a eu les vœux du président qui a dressé un portrait, comment dire, positif de la France économique. Il a même dit la France n'avait pas connu un tel élan depuis des années. Il parle des usines qui rouvrent, il parle des investissements internationaux, il parle des créations d'emplois. Est-ce que vous êtes d'accord, Emmanuel Le Chypre?
Tout ce qu'il dit est factuellement vrai, c'est-à-dire sur le fait que dans les classements mondiaux, on retrouve une place parmi les 5 pays les plus attractifs du monde, qu'il y ait plus d'usines qui ferment, qu'on n'a jamais créé, que la croissance française est devenue plus riche en emplois, absolument, ça c'est vrai. Après, il y a des pans entiers, effectivement, de faiblesse de notre pays qui ne sont pas soulevés, mais enfin, c'est pas ce qu'il allait faire dans sa cérémonie des vœux. Moi, la question en France pour 2020, bon, on voit bien que l'environnement international est pas très bon, donc la croissance va porter surtout sur l'investissement des entreprises, qui est bien orienté. La question, c'est est-ce que les gains de pouvoir d'achat qui ont été distribués en 2019 vont se retrouver dans la consommation en 2020
avec la baisse des impôts?
Pour moi, c'est la grande question, effectivement, pour l'économie française, qui passe par aussi un apaisement du climat social.
Enfin, l'investissement en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé, progressait à 5,5% par an, nous dit la Banque de France, est prévu à 3% pour 2020, donc c'est pas non plus formidable. Et puis, tout ce que le président n'a pas dit est vrai aussi, une augmentation des inégalités, une augmentation du taux de pauvreté, un retard dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, plus le gouvernement a introduit quand même un large sentiment de défiance dans la société française. Ça a d'abord été les gilets jaunes, maintenant la forme de retraite. Quel est le prochain coup qu'il va nous faire pour mettre encore plus de défiance dans cette économie?
Emmanuel?
Sachant que...
Pourquoi il a encore le droit de parler derrière?
Sachant qu'un des éléments clés qui manque, vous savez bien, Christian va encore dire que c'est pas marrant, etc. Mais faire croire que il y a rien à faire du côté de la modernisation du service public, de l'État, qui est quand même dans un état de délabrement très avancé. Et moi, c'est ça, ma principale inquiétude en France pour 2020, c'est le délabrement du service public qui atteint des niveaux absolument dramatiques. L'éducation, la santé, la justice, ça, c'est des gros sujets qu'il faut attaquer. Il nous fait croire que on va être conquérant et qu'on a les moyens. On ne les a pas.
Il faut plus de dépenses publiques, Emmanuel a raison.
Grande forme en 2020.
Pas forcément moins de dépenses publiques, mais surtout mieux de dépenses publiques.
Emmanuel...
C'est mon vœu pour 2020.
Très bien. Voilà l'auréole. Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux, les débatteurs du samedi. Dans une dizaine de minutes, notre invité, c'est le patron de Force Ouvrière, Yves Verrier. Mais on va poursuivre cette réflexion sur la baisse du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi en France, il reste impressionnant. On a plus de 5 800 000 personnes, dont plus de 3 600 000 qui n'exercent aucune activité. Cependant, la tendance est claire, les demandeurs d'emploi sont moins nombreux. Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est vraiment plus facile aujourd'hui de retrouver du travail? Prenez votre manteau, on sort du studio pour suivre notre reporter, Hélène Philly. Tiens, la voilà qui sonne à la porte d'une agence Pôle emploi dans le 18e arrondissement.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, merci, bonjour.
Ah, mais on ne vous avait pas donné les codes d'entrée.
Je suis Michel Prévost, directeur de l'agence. Nous ouvrons les portes ce matin pour notre journée habituelle. Nous avons une opération, comme d'habitude, une opération de recrutement. Tout le monde est arrivé, donc vous allez pouvoir, j'espère, communiquer un tout petit peu.
Bonjour.
Bonjour.
Et communiquer, c'est plus agréable quand il y a des bonnes nouvelles. Sur un an, le nombre d'inscrits à Pôle emploi recule de 2%. Ce sont les chiffres du troisième trimestre. La question, c'est... Mais grâce à quoi? Grâce à qui? Est-ce que c'est grâce à l'action du gouvernement, aux réformes du marché du travail, de la formation professionnelle? Est-ce que ce qui crée des emplois, c'est la flexibilisation du marché du travail ou tout simplement la croissance? L'enquête d'Hélène Philly démarre donc dans une agence Pôle emploi. Faisons-nous petit, le job dating a commencé. Le monsieur qui recrute, oui c'est lui là.
Je m'appelle Franck Cherfis, je travaille pour le centre de formation Lab 14 qui est spécialisé sur le secteur des télécoms.
Donc là, vous êtes venu aujourd'hui dans l'espoir de trouver votre bonheur, de bons profils parmi les demandeurs d'emploi.
Voilà.
Donc, monsieur Cherfis, donc, oui. On est bien d'accord, ce matin, on accueille 16 candidats hein, sur les 17 que l'on avait reçus la dernière fois. Mm-hmm. Donc, c'est parti, on y va?
Allons-y. Allons-y.
Ça se bouscule au portillon, c'est génial. Hein, donc, on va prendre monsieur...
Alors, merci d'être venu, je vais mettre un petit chronomètre parce que là, on est très dense sur la durée des entretiens. Donc, vous avez quel âge?
J'ai eu 24 ans hier.
D'accord. Vous avez eu des expériences professionnelles après votre formation initiale ou...
J'ai dû travailler en tant qu'équipier polyvalent.
D'accord. Vous avez le permis B, on est d'accord, vous avez compris que c'était une condition sine qua non pour accéder. Est-ce que vous êtes tenu peut-être par des obligations personnelles ou est-ce que vous avez une mobilité, vous seriez prêt à faire du grand déplacement?
Pour le moment, j'ai pas de charge, j'ai pas d'enfant, d'accord. Sans souci.
Ah bah c'est parfait, je vous contacte début de semaine prochaine. D'accord?
D'accord.
Allez, je vous remercie d'être venu.
Merci à vous.
Bonne fin de journée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Quelle est la proportion de demandeurs d'emploi qui sera embauché après les entretiens d'aujourd'hui?
Sur cette action, nous avons une vingtaine de postes à pourvoir. Il me faut un vivier de 25 à 30 candidats présélectionnés de façon à ce que les candidatures présentées aux employeurs soient cohérentes. Et à la limite, j'ai envie de dire, si l'employeur a difficulté à faire son choix, c'est qu'on a bien fait notre travail en amont.
Et il est capable d'en embaucher plus que prévu?
C'est déjà arrivé.
Muriel Jabi, chargée des relations entreprises, agence Pôle emploi Paris 18e.
Est-ce que vous voyez concrètement la baisse du chômage dans votre agence?
Oui, on la voit parce que nous sommes une agence de proximité. Donc on a énormément de retours, ne serait-ce que par rapport à la satisfaction des employeurs, aussi des demandeurs d'emploi. On le sent nous-mêmes, hein. Il y a quelque chose qui se passe et on en est très contents.
Il se passe bien quelque chose. Et si on regarde les chiffres, ça remonte à 2015, au quinquennat de François Hollande. Depuis, le nombre de chômeurs diminue, les créations d'emplois augmentent, avec des à-coups, mais la tendance est bien réelle. Qu'est-ce qui fait que les entreprises embauchent? On est allé voir un gros recruteur, FM Logistique, une trentaine de sites en France, 6400 salariés et des embauches massives. Laurent Leleu, DRH France du groupe.
On a recruté en 3 ans et demi, 4 ans, plus de 2000 collaborateurs en CDI. Donc je dirais qu'effectivement, on a eu une dynamique importante, une croissance soutenue, qui nous a permis effectivement d'intégrer un certain nombre de collaborateurs en CDI.
Est-ce que vous diriez que les réformes du marché du travail vous ont aidé?
Alors je dirais qu'elles nous aident toujours. Je pense aux réformes sur la formation, on est appuyé et accompagné des institutionnels, que ce soit au niveau national ou au niveau de la branche, pour pouvoir former les collaborateurs sur les métiers de la logistique.
Vous me disiez aussi il y a quelque temps que ce n'était pas pour autant une réforme du travail qui allait dicter une politique de recrutement d'une entreprise.
Ça nous y aidera, mais ce qui dicte aujourd'hui effectivement le recrutement CDI, c'est le carnet de commandes que je vais avoir avec mes clients. Et c'est le fait de décrocher, comme par exemple sur ce site à Recensurma, un nouveau client, un deuxième nouveau client et un troisième nouveau client qui va créer les 70 postes en CDI qu'on a pu recruter. Donc c'est bien le volume d'affaires que nos clients nous confient qui va me permettre de recruter en CDI.
Est-ce que les politiques publiques peuvent jouer sur la croissance d'après vous?
Bien sûr.
Comment?
C'est toute la question qu'il faudra leur poser.
Quelle est l'efficacité réelle des politiques publiques? Les économistes en savent-ils plus? Philippe Martin est le président délégué du Conseil d'analyse économique. Il chapeaute une équipe d'économistes de diverses sensibilités chargée de produire des études pour le Premier ministre. Lui-même reste très prudent.
Ce qui est vrai, c'est que certainement la croissance est aujourd'hui plus riche en emplois qu'elle ne l'était. Cela suggère que les réformes du marché du travail ont peut-être eu un impact positif.
On n'a pas vraiment d'études d'impact sur le résultat de ça. Est-ce que les employeurs qui ont eu plus de facilité à licencier ont véritablement embauché derrière? On ne le sait pas.
Non, c'est la bonne question. Donc c'est une hypothèse. Mais clairement, on va avoir besoin de temps et d'évaluation. Et c'est trop tôt, en effet, pour dire qu'il y a un impact causal des réformes du marché du travail sur l'emploi et le chômage. Nous, on a fait un travail au Conseil d'analyse économique où on disait que les baisses de charges, quand c'est sur les bas salaires, c'est positif. Si on reprend le CICE, mais si on rappelle que le CICE, maintenant, il a été transformé en baisse de charges simple, moi, je considère que ça a montré son efficacité pour les bas salaires, pour les personnes peu qualifiées. Ça a un impact positif. En revanche, au-delà, en gros, de 1,6 SMIC, on a beaucoup plus de doutes sur l'efficacité de ce type de baisse de charges.
Est-ce que cette baisse du chômage est durable ?
Je pense qu'en effet, c'est la question, parce que comme vous l'avez vu au dernier trimestre, vous avez une toute petite augmentation du chômage. Donc la grande question, et ça, il faut surveiller ça comme le lait sur le feu, c'est-à-dire est-ce que, là on a un ralentissement quand même économique de la croissance, à la fois en Europe, dans le monde et aussi en France, et donc est-ce que ce ralentissement économique signe un virage, et un mauvais virage, au sens où le chômage se remettrait à augmenter, ou est-ce que, comme très souvent, vous avez une petite augmentation du chômage, mais quand même, la tendance est bonne.
Si l'on résume, la baisse du coût du travail sur les bas salaires fonctionne, mais on ne mesure pas l'impact réel du CICE et de la libéralisation du marché du travail, de cette souplesse donnée aux chefs d'entreprise pour licencier, avec par exemple le plafonnement des indemnités prud'homales ou les ruptures conventionnelles collectives. Alors on est allé demander à un ancien leader syndical s'il avait une opinion plus tranchée sur la question.
Jean-Claude Mailly, je suis l'ancien secrétaire général de Force ouvrière de 2004 à 2018.
Vous avez suivi les négociations de la réforme du marché du travail, les ordonnances, et avant elles, la loi El Khomri, le CICE, puis les baisses de charges. Est-ce que c'est ça qui fait baisser le chômage aujourd'hui ?
Ça peut jouer un rôle si l'on considère qu'on perdait de l'emploi et des parts de marché parce qu'on n'était pas compétitif par rapport au coût du travail. Bon, certains le pensent. Moi, j'en suis pas convaincu, franchement. Je suis pas convaincu que l'élément coût du travail soit déterminant dans tous les secteurs d'activité. Vous avez des secteurs d'activité où le poids du travail, toutes cotisations confondues, ne pèse que 10, 20 ou 25 %. C'est pas là.
Les ordonnances ont permis aux employeurs de pouvoir adapter leurs effectifs plus facilement. Est-ce que ça les a pas quand même incités à recruter ?
Écoutez, moi, quand je regarde effectivement le contenu des ordonnances, qu'est-ce qui est utilisé dans tout l'arsenal des ordonnances du côté des employeurs ? Les prud'hommes, peut-être que ça joue. Moi, j'ai toujours dit que c'était un frein psychologique, ça, pour certains employeurs. Après le reste, qu'est-ce qu'il y a de changé ? Rien.
Comment vous voyez la situation évoluer ?
Alors, au-delà du climat social, de ce qui peut se passer avec les retraites, etc., bien entendu, moi, j'ai des inquiétudes sur plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, pour le secteur de l'automobile, où avec la mise en cause du diesel rapide, certains disent que ça peut impacter 100, 150 000, certains vont jusqu'à 200 000 emplois. C'est pas rien, avec des fermetures d'usines. J'ai des inquiétudes du côté de la grande distribution, où on voit bien que toute la grande distribution est confrontée à un changement de modèle de consommation. Les banques qui sont en pleine restructuration également, les assureurs qui commencent à dire « oui, mais avec l'assurance vie, on a des problèmes avec les taux d'intérêt négatifs, etc. » Donc, ça fait beaucoup de secteurs qui sont potentiellement des secteurs assez lourds en emploi où il y a des menaces à terme de restructuration.
Vous la relativisez franchement, cette baisse du chômage ?
Elle est réelle. Je ne vais pas contester le chiffre, mais je considère qu'elle est très fragile. Et que si on ne retrouve pas des taux d'activité plus forts, si on ne retrouve pas une dynamique plus importante de la part de l'État, y compris vis-à-vis de l'industrie, etc., c'est quelque chose de fugace, je crains.
Le chômage baisse, merci qui ? C'était le reportage d'Hélène Fili.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et nous avons en studio le patron actuel de Force Ouvrière. Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Alors, baisse du chômage réel mais fragile, j'imagine que vous êtes d'accord avec Jean-Claude Mailly, Yves Verrier. Est-ce que le chômage à 7% à la fin du quinquennat, ça c'était la promesse du candidat Macron, on y sera ou pas ?
La question d'abord c'est baisse du chômage, ok, mais pour quel type d'emploi ? Il y a un problème qui n'a pas été résolu, ce sont les embauches en contrat très court et la réforme de l'assurance chômage, par exemple, qui est entrée en vigueur pour un certain nombre de dispositions concernant l'accès au droit à l'indemnisation au 1er novembre, qui va être complétée par, au 1er avril 2020, la révision du salaire journalier de référence qui va impacter à la baisse les droits des demandeurs d'emploi en termes d'indemnisation. La dernière des mesures qui va rentrer en vigueur, ça ne sera qu'en 2021. 2021, c'est celle qui concerne le bonus-malus que le gouvernement a mis en place de manière très réduite, qui sera à coût nul pour les entreprises et qui n'aura pas l'effet escompté sur ce que nous proposions de faire, réduire drastiquement les recours aux emplois courts, très courts. Il faut pas oublier que la très grande majorité des embauches se fait en CDD et que parmi ces embauches en CDD, un tiers environ, ce sont des CDD d'une journée. Donc, baisser l'emploi, mais en contrepartie de quel type d'emploi, de quelle qualité d'emploi et de quelle rémunération. L'augmentation du SMIC, par exemple, aujourd'hui, à nouveau, le gouvernement se refuse à donner un coup de pouce. Or, je pense que l'emploi dépend de l'activité et l'activité dépend aussi du pouvoir d'achat. Peut-être un peu plus d'ailleurs en France que chez nos voisins en Europe.
Alors parlons d'activité, on a parlé dans le reportage de la grande distribution, mais en ce moment, ce qu'on entend beaucoup sont les petits commerces, sont les hôteliers, sont les restaurateurs dans les grandes villes, et en particulier à Paris, qui disent « ce mouvement de blocage nous fait énormément de tort ». Quand vous entendez ça, que pensez-vous Yves Verrier ?
Le mouvement de grève fait énormément de tort à tout le monde, à commencer par les grévistes qui perdent du pouvoir d'achat. J'ai aujourd'hui nombre d'adhérents qui sont à 15 jours, bientôt 20 jours de paye en moins sur le mois de décembre. Évidemment, la grève, elle a comme conséquence de perturber l'économie, à commencer par l'entreprise dans laquelle elle a lieu et les entreprises qui sont autour, l'activité qui est autour. Encore une fois, on ne fait pas grève par plaisir. Nous avions, j'ai relu en venant à cette émission ce que nous disions dès le mois de mars-avril sur le dossier des retraites, et nous avions alerté sur le risque que nous ne soyons pas entendus, notamment sur la question de l'âge. À l'époque, on parlait d'un bonus, on avait mis en garde en disant, vous allez voir, le bonus va vite se transformer en malus avec cette histoire d'âge pivot à 64 ans. C'est arrivé dès le mois d'avril. Au mois d'août, nous avons prévenu, si nous ne sommes toujours pas entendus, alors que ça fait 2 ans qu'on explique pourquoi ça ne va pas, cette réforme des retraites, nous n'aurons pas d'autre moyen que d'appeler à la grève. Et le mois de septembre, nous avons annoncé le 5 décembre. Rien ne s'est passé du côté du gouvernement et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Je considère que la responsabilité, elle est à tout le moins partagée. Il a fallu quand même que le 5 décembre ait lieu, que la grève soit déclenchée pour que le gouvernement finisse par s'apercevoir que sa réforme, ça ne va pas pour les danseurs de l'opéra, ça ne va pas pour le personnel navigant de l'aviation civile, ne va pas pour les marins, etc. etc. Malheureusement, il a fallu qu'on en arrive là pour se faire entendre.
Le gouvernement a donc en effet énormément lâché de concessions pendant les vacances aux danseurs de l'opéra, aux marins pêcheurs, aux pompiers, aux gendarmes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il entend en fait.
Il entend, je dois le dire ainsi, le rapport de force, puisqu'il n'entend pas quand on lui explique pour les raisons pour lesquelles cette réforme ne convient pas, ne va pas. Il a fallu.
Et ça n'est pas suffisant, ce qui a été.
Bien sûr que non, c'est pas suffisant parce qu'il faut bien comprendre que l'objectif principal de cette réforme, il est double. Il est d'une part de rendre plus difficile la constitution de son droit à la retraite. Le système par points généralisé voudra que demain, justement puisqu'on parlait des contrats courts, de la qualité de l'emploi, lorsque vous avez qu'un temps partiel ou un petit salaire, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits, signifie que quand vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de droits parce que vous ne cotisez pas et que vous avez un petit salaire, vous n'avez qu'un petit capital de points. Et deux, les paramètres seront pilotés par l'État demain, l'ensemble des paramètres.
Mais
la valeur du point, le malus, le bonus, l'HP, etc.
Lorsque le chef de l'État dit « je demande au Premier ministre un compromis le plus vite possible », est-ce que vous êtes prêt au compromis ?
Mais le compromis sur quoi ? On nous invite à négocier sur des questions qui n'ont pas à voir avec la réforme des retraites. Pénibilité, moi, on est prêt à négocier sur la pénibilité et on avait négocié bien en amont de ce projet de réforme des retraites sur la question de la pénibilité, sauf qu'on nous a refermé la porte, par exemple, sur les critères de pénibilité. On nous dit on peut négocier sur le minimum de pension. Le minimum de pension à 85% du SMIC, d'abord, je rappelle quand même que c'est dans la loi depuis 2003, que ça aurait dû être mis en œuvre en 2008. Le gouvernement nous dit oui, mais c'était une loi d'intention. Et alors, le gouvernement actuel ou les gouvernements qui l'ont procédé n'avaient pas pour obligation de mettre en œuvre l'intention de la loi de 2003.
Donc vous demandez le retrait total ?
Je demande à ce que... Je dis pas retrait, mais ça revient
vous
à ça maintenant.
Vous ne dites plus retrait ?
Non, je ne le disais pas parce que je ne voulais pas, si vous voulez, que vous, l'on entre dans une situation où l'un ou l'autre doit mettre genou à terre. J'ai dit souvent, mettons cette mauvaise idée de côté parce que c'est une très mauvaise idée. Mais à ce stade-là, je crois effectivement qu'il vaut mieux retirer ce projet de réforme. On peut négocier sur bien des aspects qui concernent la vie active, la vie au travail, la question des salaires, la question de la qualité des emplois, des jeunes qui ont du mal à rentrer avec des stages de plus en plus souvent.
Si l'âge pivot de 64 ans est retiré, par exemple, est-ce que c'est acceptable pour vous ? Est-ce que là, vous ne serez plus dans le cas de camp de l'opposition ?
Ce serait un recul de la part du gouvernement par rapport à ce qui a été annoncé, parce que l'objectif du gouvernement avec l'âge pivot, c'est d'aller plus vite que ce que ne lui permettra le système par points.
Mais demain, le système force par ouvrière point,
eh bien, on aura fait reculer le gouvernement, mais ça ne suffira pas, parce que la retraite par points, elle contient intrinsèquement les moyens demain pour les gouvernements à l'avenir d'agir sur les paramètres du système pour agir sur le niveau de la pension et de fait sur l'âge effectif auquel vous pourrez partir à la retraite.
Une suspension de la réforme. Mais, qu'en penserait Force ouvrière ?
Ah, mais si le gouvernement nous dit, on constate qu'effectivement, on n'a pas su expliquer, on n'a pas pu convaincre, donc on stoppe, on appuie sur le bouton pause et on revient à la table de négociation sans préalable, nous sommes prêts.
En attendant, vous appelez à une journée de mobilisation la semaine prochaine, le 9 janvier. Vous appelez aussi à une manifestation le 11 janvier. Qu'est-ce que c'est votre ambition en termes de chiffres ? Parce qu'en décembre, il y a eu une grosse manifestation le 5, mais en réalité, après, ça s'est diminué. Et on voit que la mobilisation à la SNCF, à la RATP, aujourd'hui, elle est plutôt en décrue.
Encore une fois, ce sont les erreurs d'appréciation des gouvernements. On met pas loin d'un million de personnes à manifester le 5 décembre, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Hein, je prends les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le 17 décembre, on était pas très loin des 700, 800 000, selon les mêmes chiffres du ministère de l'Intérieur. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Notre objectif, il est effectivement, la grève, elle continue, hein, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui en sont à 15, 20 et plus jours de grève.
Vous pensez avoir l'opinion publique avec
lundi,
vous ?
Lundi, nous allons réunir les salariés, prendre les éléments d'explication, les raisons pour lesquelles il ne faut pas qu'on lâche aujourd'hui, et on va faire en sorte de mobiliser le plus largement, puisque malheureusement, il n'y a que comme ça qu'on se fait entendre.
Vous serez aussi aux négociations, puisque dès mardi, elles repartent entre Matignon et les syndicats, ça repart au ministère du Travail.
Quand on dit négociation, je crois qu'on est très optimiste. J'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup d'espace à la négociation, je vous l'ai dit. On nous a dit équilibre, mais pas question d'augmenter la cotisation, alors que nous avions proposé de reprendre une des préconisations du Conseil d'orientation des retraites, augmenter la cotisation de 1%, rétablir l'équilibre des systèmes de retraite à horizon 2030. Mais on nous dit tout de suite, pas question. Et on revient à la question de l'emploi. Les gouvernements sont tétanisés par la question du chômage. Et de fait, depuis de nombreuses années, c'est quasiment ce qui se produit depuis 82-83, un président de la République avait dit, on a tout essayé contre le chômage. Dès que les employeurs lèvent le petit doigt, attention, augmentation des salaires, augmentation du coût du travail, destruction de l'emploi. Attention, augmentation des cotisations, augmentation du coût du travail, destruction de l'emploi. Et les gouvernements ne bougent pas. C'est exactement ce qui s'est produit en décembre de l'année dernière, lorsque le gouvernement, plutôt que d'augmenter le SMIC, a créé la prime d'activité, enfin a accéléré la mise en œuvre de ce qui était prévu sur la prime d'activité, parce que nous disait le Premier ministre, si on augmentait le SMIC, on augmente le coût du travail, ça va à l'encontre de la compétitivité et donc on détruirait de l'emploi.
Donc on voit que le mouvement de grève, pour vous, ne doit pas s'essouffler et que ça peut continuer jusqu'à quoi ? Fin janvier ? Ça peut... Enfin...
J'aimerais que ça s'arrête le plus vite possible. Si le gouvernement voulait enfin entendre que cette réforme, ça ne va pas, ça ne le fait pas, et qu'on peut très bien... On a un système de retraite qui fonctionne aujourd'hui, bon sang.
Bon. Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière, merci d'avoir été sur France Inter. Sandrine, depuis le 1er janvier, les salariés devraient tous avoir un comité d'entreprise flambant neuf. Il faut parler maintenant de comités sociaux et économiques. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Alors, il faudrait déjà que toutes les entreprises aient fait la bascule. Elles avaient jusqu'au 31 décembre pour transformer leur ancien comité d'entreprise en nouveau comité social et économique. Ça passe par un accord signé avec les syndicats. Bon, beaucoup de directions ont laissé passer les 12 coups de minuit et dans certains cas, il n'y avait aucun candidat pour se présenter aux élections professionnelles. Je rappelle que le CSE, issu des ordonnances Macron, fusionne toutes les anciennes instances. les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. C'était pour faire plus simple, plus efficace, qu'il n'y ait plus de réunions sans fin où on n'avançait pas. Ce qui est surtout efficace, c'est la réduction des moyens et du nombre des élus. Ils ne sautent pas de joie, ça se voit surtout dans les grands groupes. IBM, par exemple, est passé de 7 comités d'entreprise à 3 CSE.
Et donc la question qui se pose, Sandrine, c'est est-ce que les salariés peuvent y perdre ?
Il faudra bien sûr attendre un premier bilan, mais ce qui est inquiétant, c'est la dilution des anciens CHSCT dans ce nouveau lieu où on parle de tout, des tickets resto, de la stratégie économique ou des risques psychosociaux. Dans les sociétés de plus de 300 personnes et les sites à risque, des commissions santé et sécurité sont obligatoires, mais elles n'ont aucun pouvoir et ne peuvent pas attaquer en justice. Le risque dans les nouveaux CSE est d'évacuer les sujets qui touchent à la santé. D'abord parce que s'il faut payer une expertise pour savoir si une réorganisation peut nuire ou pas à la santé des salariés, ce n'est plus l'employeur qui la paye entièrement. 20% seront déboursés par les élus qui devront faire des choix dans leurs demandes de conseil. Ensuite, parce que les vrais spécialistes de ces questions se font de plus en plus rares. Comme il y a moins de place dans le CSE, ce sont plutôt les anciens délégués du personnel ou les élus des ex-CE qui sont choisis. Et puis, nouveau recul, alors que tous les élus du CSE pouvaient demander à se former quelques jours à ces questions de santé et de conditions de travail, une formation payé par l'employeur, ce droit ne sera plus réservé qu'aux seuls membres des commissions de santé et de sécurité. C'est ce qui est précisé sur le site du ministère du Travail depuis le 18 décembre. Le dialogue social commence l'année en petite forme.
Sandrine Foulon, en effet, ma vie au boulot, écrivez-lui, ça se passe sur le site franceinter.fr. Réécoutez l'émission en podcast, retrouvez des extraits de l'émission sur les réseaux. Voilà le Magéco, baisse le rideau, toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end. Rendez-vous samedi prochain, même jour, même heure.